Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio SBS. Avec vous aujourd'hui, Grégory Pless. Je vais vous accompagner pendant une heure d'émission en français. Alors au programme du jour, un entretien avec le professeur Humbert de l'université La Trobe. Il nous parlera des recherches qu'il mène actuellement sur les effets à long terme du Covid-19. Et puis on discutera aussi avec l'ancien rugbyman Laurie Lawrence. Il vient de créer un site internet destiné aux enfants et à leur apprendre à comment éviter les risques de noyade. Et puis aussi, comme d'habitude, on fera le point sur les sports, un point qui va être un peu triste aujourd'hui. Et puis, comme tous les mardis aussi, le topo sur les actualités de la semaine en France. Mais tout de suite, c'est l'heure du journal. On y va. Et les principales actualités de ce mardi 29 juin 2021. Après Sydney, Darwin, Perth, c'est maintenant la ville de Brisbane et une bonne partie de l'état du Queensland qui se confine. Hier soir, Scott Morrison a pour sa part annoncé que tous les adultes, quel que soit leur âge, pouvaient désormais se faire vacciner avec le vaccin AstraZeneca. Et à Bucarest, la désillusion pour les Bleus qui s'inclinent à l'Euro en huitième de finale face à la Suisse. C'est donc désormais au tour de Brisbane et d'une bonne partie du Queensland d'être confinés. Dans le détail sont également concernées la région de la Gold Coast, la ville de Townsville, Palm Island et Magnetic Island, qui entrent donc ce soir à 18h en confinement et ce pour une durée de 3 jours. Cette décision elle a été prise après la découverte de 2 nouveaux cas dans l'État, parmi lesquels une jeune femme non vaccinée et qui pourtant travaillait dans un hôpital où sont traités des patients atteints du Covid-19. Alors face au risque de propagation, Anastasia Palaché estime qu'il fallait réagir vite et réagir fort.
The risk is real and we need to act quickly. We need to go hard, we need to go fast. I want to just say to everyone, I know we're in the middle of school holidays and I know people have made plans, but we've just got to do this. And we've got to do this for 3 days, so there'll be a lockdown for 3 days. And I don't want it to be 30 days, so we just have to do this.
Au quatrième jour du confinement à Sydney, les autorités recensaient 19 nouveaux cas, parmi lesquels 17 sont liés à d'autres cas préexistants. Alors la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que parmi ces nouveaux cas, 7 d'entre eux sont à l'isolement, depuis le début de leur phase infectieuse, un élément sur lequel a insisté la médecin-chef de Nouvelle-Galles du Sud, Kerry Chant.
What I want to see in progressive days is that we start seeing all of the cases being effectively isolated that we're announcing, and that's going to be a key indicator of success. At the moment, we are still seeing some cases that were potentially infectious in the community, but what we're hoping is because of the lockdown, the number of interactions those cases have had where there is a potential for transmitting the virus would have decreased significantly.
Et au-delà du bilan quotidien sur le plan sanitaire, le gouvernement local a également annoncé un dispositif de soutien financier destiné aux entreprises. Les auto-entrepreneurs et les PME comptant moins de 20 employés pourront ainsi recevoir une subvention allant de 5 à 10 000 dollars, un montant qui sera fonction des pertes provoquées pour ces entreprises par le confinement. Et de son côté, Dominique Perrottet, le trésorier de l'État, a pour sa part annoncé que les habitants de Nouvelle-Galles du Sud avaient désormais jusqu'au 31 août pour utiliser leurs bons d'achat Dine and Discovers et que ces bons d'achat, ils pourraient également les utiliser pour de la simple vente à emporter. On l'écoute.
This package today is all about keeping businesses going, giving the cash flow that's required. The funds will be available from July 19. You will need to provide evidence through an accountant in relation to that decline in turnover. But this will provide rapid relief to support businesses recover from this difficult time.
Et alors qu'une bonne partie de l'Australie se reconfine, Scott Morrison, le Premier ministre, a pris la parole hier soir en conférence de presse après avoir réuni le cabinet national. Et au cours de cette conférence de presse, il a annoncé que tous les adultes pouvaient désormais s'adresser à leur médecin généraliste pour recevoir le vaccin AstraZeneca. Et ce, alors que c'est le vaccin Pfizer qui reste pourtant recommandé pour les personnes âgées de moins de 60 ans. Cette décision, elle intervient alors que le gouvernement fédéral est de plus en plus critiqué, accusé notamment d'être responsable de l'extrême lenteur de la campagne de vaccination en Australie.
The focus now is to continue to encourage people to come forward and get vaccinated. AstraZeneca is there for people to get vaccinated, and there are many points of presence, over 5,000 GPs alone, where you can get that done. And so if people are concerned, as I'm sure they are, as I am, then I'd be encouraging them to go out and get that vaccination.
Par ailleurs, hier soir, Scott Morrison a également annoncé que les personnes qui travaillaient dans les maisons de retraite avaient désormais l'obligation de se faire vacciner. L'objectif en la matière étant qu'ils aient tous reçu au moins une dose du vaccin d'ici au 1er septembre. Une mesure qui a donc été annoncée hier, mais qui aurait dû être prise beaucoup plus tôt, d'après Sanu Guimere. Cette jeune femme d'origine népalaise travaille, elle, en maison de retraite et elle estime que la vaccination obligatoire pour les personnes qui travaillent avec des personnes elles-mêmes à risque, c'est une évidence. C'est pourquoi elle-même s'est fait vacciner dès que ça a été possible. On l'écoute.
I have seen that some people are saying that my body is my choice, but I think that in my opinion, it's not very good things to say because we are working with a vulnerable group of people. So I'm supporting for mandatory. It has to be mandatory for all aged care people.
La Nouvelle-Zélande, de son côté, a annoncé qu'elle rouvrait sa bulle de voyage avec certains États australiens. Sont concernés Canberra, l'État du Victoria, la Tasmanie et l'Australie méridionale, et ce, à partir de lundi prochain, le 5 juillet. La bulle en question, elle avait été mise en pause samedi dernier après l'émergence dans plusieurs États d'Australie de nouveaux cas de Covid. La bulle va donc rouvrir, mais avec une condition, il faudra fournir un test PCR et qu'il soit négatif pour pouvoir embarquer pour la Nouvelle-Zélande. Depuis Rome, en Italie, Anthony Blinken a appelé les pays alliés de Washington à rapatrier les anciens combattants de Daesh en Syrie. Environ 10 000 djihadistes sont actuellement détenus par les forces kurdes au nord-est de la Syrie, mais aussi 60 000 femmes et enfants. La France est particulièrement visée par cet appel du secrétaire d'État américain. C'est ce que va nous expliquer Nicolas Falaise pour RFI.
Cette situation ne peut tout simplement pas persister indéfiniment, selon le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken. Le dossier des combattants étrangers détenus en Syrie, parfois avec leur famille, est un sujet ultra sensible, notamment pour Paris, qui n'a rapatrié que quelques enfants et leur mère au cas par cas, alors qu'on estime à 200 le nombre d'enfants de nationalité française actuellement détenus dans des conditions très difficiles dans des camps du nord syrien. Ce lundi à Rome, le secrétaire d'État américain a saluer les efforts de l'Italie ou du Kazakhstan qui ont organisé le retour de leurs ressortissants, la Belgique qui travaille actuellement. Pour Anthony Blinken, les autres alliés de Washington doivent rapatrier leurs nationaux pour les juger ou les réhabiliter. Pour l'instant, la France reste sourde à ces appels, malgré les démarches de familles souvent désespérées. En mars dernier, plusieurs avocates de ces familles ont déposé un dossier auprès de la Cour pénale internationale en invoquant le traitement cruel et dégradant subi par des ressortissants français dans les camps du nord de la Syrie.
Et comme un nouveau signe du dérèglement climatique, l'Amérique du Nord est actuellement confrontée à une vague de chaleur sans précédent qui va de la Californie jusqu'à la région de l'Arctique où on relève en ce moment des températures qu'on n'avait pas vues depuis plus de 30 ans. Le gouvernement canadien a d'ailleurs lancé une alerte canicule dans 3 États, mais aussi dans 2 territoires du Grand Nord. On va écouter Camille Marigot pour RFI.
Environnement Canada évoque une vague de chaleur prolongée, dangereuse et historique. Il fait plus chaud à certains endroits du pays qu'à Dubaï, constate même l'un des climatologues de l'agence, en cause un dôme de haute pression qui emprisonne l'air chaud. En Colombie-Britannique, plus de 40 nouveaux records de température ont été enregistrés ces deux derniers jours. En tête, le village de Lytton, près de Vancouver, où le mercure a dépassé les 46,5 degrés. À titre de comparaison, la température la plus élevée jamais enregistrée dans le pays date de 1937, 45 degrés. Dans la province de Saskatchewan, où une alerte a été émise, tout comme dans l'Alberta, le Yukon et des territoires du Nord-Ouest. Dans l'Ouest des États-Unis, les États de Washington, de l'Idaho et de l'Oregon et le nord de la Californie sont également affectés par cette vague de chaleur. Conséquence, certaines campagnes de vaccination contre le Covid-19 sont annulées, des écoles fermées. Face au manque de ventilateurs et de climatiseurs, certaines villes ont ouvert des centres de rafraîchissement. En Oregon, les dernières épreuves de sélection olympique d'athlétisme ont été suspendus dimanche à Eugene, où il a fait plus de 43 degrés.
Un cessez-le-feu vient d'être décrété dans la région éthiopienne du Tigré, en proie à des affrontements très violents depuis maintenant près de 8 mois. Ces affrontements, ils ont déjà fait des milliers de morts. Ils ont également provoqué le déplacement de plus de 2 millions de personnes, mais aussi provoqué le début d'une famine pour des milliers de personnes. Ça n'est donc pas une surprise si ce cessez-le-feu est annoncé aujourd'hui et annoncé qu'il sera maintenu jusqu'au mois de septembre, puisque les mois qui viennent correspondent peu ou prou à la période des récoltes dans cette région du Tigré. L'Euro, c'est fini pour l'équipe de France qui s'est inclinée ce matin en 8e de finale contre la Suisse à l'issue d'un match nul 3-3 et d'une séance de tirs au but au cours de laquelle Kylian Mbappé a manqué son pénalty. Le capitaine des Bleus, Hugo Lloris, est bien sûr déçu. Il assure pourtant que son équipe a tout donné sur le terrain. On l'écoute s'exprimer au micro de RFI.
Les regrets qu'on peut avoir, c'est qu'on aurait pu gérer un peu mieux à 3-1. Je crois que notre force par le passé, ça a été d'être un coffre-fort, d'être une équipe solide qui donnait rien à l'adversaire. Et ce soir, on les a laissés dans le match. Et ce but, voilà, 90e, fait très très mal. Mais malgré ça, pendant les prolongations, on n'a pas lâché. On est allé au bout du bout. On ne peut pas nous reprocher ce manque de générosité parce qu'on a tout donné, on a tout laissé sur le terrain. Même pendant les prolongations, on a des situations, on a des occasions. Et après les pénaltys, voilà, c'est la loterie. Il faut de la réussite. On n'en a pas eu dans cet exercice. Et maintenant, il faut digérer cette douleur. Et je pense qu'à 3-1, on doit être capable de fermer le jeu, comme on a su le faire par le passé. Après, c'est le football, c'est comme ça qu'on l'aime, c'est comme ça également qui nous fait mal. Ce soir, c'est très douloureux.
Nous aussi, ça nous fait mal et d'ailleurs, on reviendra un peu plus en détail, bien sûr, sur cette rencontre dans quelques minutes dans le journal des sports. Pour l'instant, on termine le journal avec un coup d'œil rapide à la météo de ce mardi en Australie. 18 degrés à Perth, soleil à Adélaïde et 17 degrés sur place, 16 degrés à Melbourne, 17 degrés à Sydney qui est aujourd'hui balayé par des averses, 20 degrés à Brisbane, 27 degrés à Cairns et jusqu'à 32 degrés à Darwin, aujourd'hui sous un ciel tout bleu.
Journal des sports de ce mardi avec tout d'abord le foot, l'Euro. Eh bien, la Suisse a éliminé la France au tiers au but. Olivier Pron et Loïc Bussière pour Radio France Internationale.
Oui, terrible désillusion et énorme joie pour les Suisses parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'équipe de France depuis quelques minutes, mais la Suisse est en quart de finale. Ça ne lui était pas arrivé depuis 67 ans et c'est elle qui est allée chercher cette victoire, cette qualification au tir au but, vous l'avez dit, après un huitième de finale absolument emballant, passionnant, captivant, un truc de déglingo véritablement parce que les Suisses ont maîtrisé la première mi-temps. Ils menaient 1-0, ils ont eu une balle de 2-0 avec un pénalty pénalty finalement arrêté par Hugo Lloris. Ça faisait 9 ans qu'il n'avait pas arrêté un pénalty avec l'équipe de France. Donc forcément, à ce moment-là, le point levé, les Bleus doivent être remis dans le sens de la marche. C'est exactement ce qui s'est passé avec une égalisation de Benzema. Un doublé de Benzema, le deuxième en deux matchs, et puis une lucarne exceptionnelle de 20 mètres de Paul Pogba. Les Bleus mènent 3-1. La cause est entendue, ils sont en route pour Saint-Pétersbourg. Mais non, ces Bleus-là ne sont pas solides. Ces Bleus-là ne font pas un bel euro depuis le début, à part peut-être le match contre les Allemands. Et ces Bleus-là, finalement, se voient rejoindre. 81e, doublé de Seferovic. 90e, Gavranovic. 3 partout, il y aura une toute dernière chance pour les Bleus. La transversale de Kingsley Coman à la 94e. Finalement, prolongation. Rien ne se passe, comme souvent en prolongation. En tout cas, ce soir, il ne s'y est rien passé. Si ce n'est que Kylian Mbappé avait tout raté depuis le début de l'Euro, a tout raté dans ce match-là et va manquer son pénalty. En tout cas, il se le fait arrêter. Kylian Mbappé, c'est un symbole de l'échec retentissant de cette équipe de France qui s'arrête donc en 8e de finale alors qu'elle est vice-championne d'Europe en titre et championne du monde. Ça fait mal.
Dans l'autre match, la Croatie éliminée par l'Espagne, 5-3, après prolongation. Dimanche, le Portugal a été sorti par la Belgique, 1-0. Précision de Hugo Moissonnier pour RFI.
À l'arraché, oui, mais ils ont peut-être grandi, ces Belges. Il ne faut pas le dire trop fort, ils sont encore autour de moi, mais peut-être qu'ils se sont mis ou qu'ils ont appris à gagner à la française, si je puis dire, sans forcément être les meilleurs sur le terrain, mais au moins les plus efficaces devant, en marquant lors d'un temps faible, hein, clairement, Thorgan Hazard. 42e minute, il allume et Rui Patricio, le portier portugais, se trouve un petit peu sur une frappe à l'entrée de la surface de réparation. 1-0 et puis derrière, les Belges, en seconde période, ils auront surtout eu l'opportunité de montrer qu'ils étaient capables de tenir le score avec un peu de cynisme, hein, le même qu'ils avaient reproché aux Bleus lors de la demi-finale de Coupe du Monde en 2018, notamment l'arrière-garde très chevronnée, Vertonghen, Alderweireld. Et puis Vermaelen a bien tenu le choc, sans oublier Thibaut Courtois, décisif face à Ronaldo en première période, décisif face à Ruben Dias, et sauvé par son poteau sur une frappe de Guerrero lors du deuxième acte. Voilà la Belgique, capable de marquer quand il le faut, capable de tenir quand il le faut. La Belgique qualifiée sans forcément briller, mais en étant solide.
Et les supporters belges, comment ont-ils fêté cette victoire? À nouveau, Hugo Moissonnier pour RFI.
Chez les supporters belges, il y a d'abord les diablotins, les jeunes fans qui ne savent plus où donner de la tête.
C'est qui votre joueur préféré ce soir?
Eden
aussi, il a bien joué quoi. Genre tout bien joué.
Était exceptionnel.
Et les blessures quand même, De Bruyne et Hazard?
Espero que c'est pas grave.
Vous venez d'où?
De Binche.
Ah, vous venez de Binche, le carnaval bien sûr.
Ce supporter plus chevronné s'appelle Jacques. Pour faire honneur à sa ville, il se déguise, chapeau, maillot, tout est bon pour encourager ses chouchous. Il rêve d'un tout premier titre.
Ce serait magnifique. Ils sont concentrés à 100%. Ils ont envie de la gagner, en tout cas. Ils ont envie de faire plaisir à tout ce pays qui est derrière eux.
Et peu importe si ce dimanche, la Belgique a gagné sans plaire en profitant d'une erreur du gardien portugais et si elle a été sauvée par son poteau en fin de partie.
Je suis fier de mon équipe, quoi qu'il arrive. Je souhaite qu'une chose, c'est qu'ils gagnent un trophée pour tous ces petits gamins. Je vais pleurer parce que pour tous ces...
Vous êtes vraiment ému.
Ah ouais, moi je l'ai su depuis 1983.
Ah oui, vous avez connu les périodes de disette, quoi. Ah oui, donc là, c'est incroyable.
Moi, je me suis retrouvé dans les stades droit bonheur, 2300 supporters. Et j'ai plus de 300 matchs à mon actif, donc vous comprenez que...
Ah oui, donc là, on savoure.
Ouais, là, c'est...
Rendez-vous à Munich pour de nouvelles émotions en quart de finale contre un autre grand d'Europe, à savoir l'Italie.
La Belgique qui retrouvera l'Italie en quart de finale. On passe au Tour de France avec la troisième étape hier entre Lorient et Pontivy sur les routes de Bretagne. C'est le Belge Tim Merlier qui l'emporte. Mais il y a eu des chutes importantes, comme nous l'explique Éric Chorin pour RFI.
Le grand favori pour la gagne à Pontivy, l'Australien Caleb Ewan, chutant lourdement à 200 mètres de la ligne d'arrivée en emportant Peter Sagan avec lui dans une interminable glissade. C'est l'image choc du final de cette troisième étape. Caleb Ewan ne s'en relèvera pas. Pendant ce temps, le Belge Tim Merlier remportait l'étape devant son coéquipier et compatriote Jasper Philipsen, tous deux ayant bénéficié du gros effort fourni par leur leader, qui n'est autre que le maillot jaune Mathieu Van Der Poel, pour les amener à signer un doublé dans les rues de Pontivy. le bonheur des Belges qui contraste forcément avec le malheur de ceux très nombreux qui ont chuté, de Geraint Thomas, le vainqueur du Tour 2018 en début d'étape, mais le Gallois a réussi à revenir, à Primoz Roglic, le deuxième du Tour l'an passé, qui a cédé 1 minute 21 secondes sur la ligne, le peloton ayant été scindé en plusieurs morceaux. Il faudra faire les comptes, mais derrière Mathieu Van Der Poel en jaune et Julien Alaphilippe en vert, les deux favoris du Tour qui sont le mieux passés entre les gouttes, ou plutôt les chutes, sont l'équatorien Richard Carapaz à 31 secondes et le vainqueur sortant, le Slovène Tadej Pogacar, à 39.
Mathieu Van Der Poel, le Néerlandais, le petit-fils de Raymond Poulidor, est toujours en jaune pour son premier Tour de France. Écoutez-le.
Ouais, c'est incroyable, c'est mon premier tour, déjà la deuxième étape. J'ai réussi à gagner et prendre le maillot en plus, c'est incroyable. Pendant la course, j'ai pas vraiment pensé, mais je me sentais bien dans la première ascension ici. Et j'ai attaqué, il y avait personne qui allait avec moi. J'ai fait mon effort jusqu'aux lignes pour les secondes déjà. Et après, à la fin, après Colbrelli, à 800 mètres de l'arrivée, j'ai tout donné parce que je savais que je devais gagner avec quelques secondes d'avance pour prendre le maillot. Et là, c'est incroyable que ça a réussi quand même. Porter le maillot jaune, mon premier tour, c'est incroyable.
On passe à l'Euro féminin de basket. La France battue par la Serbie, 63 à 54 en finale. Précision de Tom Rossi pour RFI.
9 points d'écart, 63 à 54. C'est la cinquième défaite de suite des Bleus en finale d'un championnat d'Europe. Elles avaient jusqu'ici réalisé pourtant un parcours sans faute, 6 matchs, 6 victoires, avec 19 ballons perdus au total et un manque total de maîtrise. Les Françaises n'ont rien pu faire face aux Serbes. Elles se contentent encore une fois de la médaille d'argent à moins d'un mois des JO. C'est une grosse déception pour Andy Miem au micro de Canal+.
J'ai l'impression que c'est le scénario qui se répète à chaque fois. Ce soir encore, on n'a pas réussi à s'imposer, à imposer notre jeu, à dérouler notre jeu. Elles nous ont, je pense, prises à la gorge et on n'a pas su s'en défaire.
Et puis le championnat de France d'athlétisme a pris fin dimanche, à quelques semaines avant les JO de Tokyo. Les précisions de Tom Rossi pour RFI.
Comme pour le basket, c'est une répétition pour les Jeux Olympiques et elle n'est pas très rassurante, cette répétition pour l'équipe de France d'athlétisme. Beaucoup de têtes d'affiche absentes comme le sprinter Jimmy Vico et des résultats peu glorieux. À l'image du perchiste Renaud Lavillenie qui a perdu son titre, l'ex-recordman du monde a échoué à 5,80 m et il lègue donc son titre au jeune Ethan Cormon, vainqueur au nombre d'essais à 5,70 m. Renaud Lavillenie restait pourtant sur une belle performance, un saut à 5,92 m en Pologne la semaine dernière. Beau joueur, Lavillenie n'est pas surpris par la prestation de son adversaire qui ira aussi à Tokyo.
Ethan, c'est pas une surprise. Il a vraiment passé un déclic cet hiver. Là, cet été, il y a eu une ou deux fois où il est passé un peu du à côté du coche et ce qui fait qu'il est arrivé ici dans un contexte où il avait un peu la pression parce que voilà, sa place au jeu était pas validée à 100%. Il fallait quand même se battre. Et c'est un jeune talent qu'on a découvert. En tout cas, pour nous à la Perche, ça fait quelques années qu'on le suit et qu'on sait qu'il a du potentiel. Et là, il est en train de le mettre en application. Donc, c'est bien pour la France, c'est bien pour notre discipline.
Le Grand Prix de Formule 1 de Styrie en Autriche a été remporté dimanche par Max Verstappen, le Néerlandais. Deuxième, le Britannique Lewis Hamilton. Et Valtteri Bottas, le Finlandais, est arrivé à la troisième place. MotoGP, c'est le Français Fabio Quartararo qui l'a remporté dimanche au Grand Prix des Pays-Bas. Un mot de rugby avec la State of Origin et ce sont les Blues de New South Wales qui ont remporté la série 2-0 après leur victoire dans le deuxième match 26-0 contre le Queensland. Écoutez le capitaine des Blues, James Tedesco.
Yeah, it's just cool to be a part of. Everyone's just working for each other. I mean, that's what we talked about all week and all both camps is just working for the guy next year and having that close bond and it shows on the field how we play. Everyone's just working in attack and defense and everything is just flowing and it's awesome to be a part of, yeah.
Voilà pour le journal des sports de ce mardi. Vous écoutez Radio SBS, le programme en français. Eh bien, comme chaque mardi, place à présent à l'actualité française. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Émile Matassot. Bonjour à vous, Émile.
Bonjour Jean-Noël, bonjour à tous.
À la une, le deuxième tour des élections régionales qui se tenait dimanche. Avant d'analyser les résultats, le premier constat qui s'impose, c'est le très faible taux de participation.
Oui, comme au premier tour, le taux d'abstention est massif. Il n'y a pas eu de sursaut républicain, citoyen, sursaut électoral ou autre. Appelez-le comme vous voulez, le résultat est le même, c'est-à-dire 2/3 des électeurs ne se sont pas déplacés pour aller voter. Au premier tour de ces élections régionales, le 20 juin, le taux d'abstention s'était élevé à près de 67%. Là, on est un petit peu en dessous, légèrement, mais dans les mêmes eaux, plus de 65% d'abstention, 65,7 exactement. Les appels des candidats et des états-majors des différents partis politiques entre les deux tours n'y ont rien changé. Les Français, les électeurs ont boudé ce scrutin dans des proportions jamais vues, à l'exception du référendum de 2000 sur le passage du septennat au quinquennat. Mais là, on parle d'une élection. En 2015, lors des dernières élections régionales, l'abstention avait atteint 60% au premier tour, mais il y avait eu un rebond au deuxième tour, 50% de participation. Là, dimanche, 31 millions de Français ont sciemment choisi de ne pas aller voter.
Comment peut-on expliquer un tel taux d'abstention ?
Oui, bien les raisons que l'on peut invoquer, tentative de décryptage de ce désintérêt, ces raisons, elles sont multiples. Alors, le contexte pandémique, oui, bien entendu. Après plus d'un an de vie rythmée par les restrictions liées au Covid-19, les Français sûrement ont d'autres envies et priorités, même inconscientes, que d'aller voter un dimanche, alors que la vie reprend progressivement à l'extérieur. C'est comme si depuis un an, l'espace médiatique, avec la pandémie et les messages quotidiens de prévention du gouvernement, des ministres, des autorités sanitaires, avaient saturé l'espace et que les électeurs, en ce mois de juin, ne demandaient qu'une chose, qu'on arrête de leur dire ce qu'ils devaient faire. Et ces injonctions de devoir aller voter, de remplir son devoir citoyen, l'importance de glisser son bulletin dans l'urne, etc., etc., ces messages-là ne passent plus, ils sont même contre-productifs. Alors forcément, cela discrédite grandement la démocratie, cela dénote un malaise profond. Il y a sûrement des pistes à explorer, et dimanche soir, sur les plateaux de télévision, quand les résultats sont tombés et ce taux d'abstention, eh bien, nombre de responsables politiques ont avancé l'idée qu'il faudrait rendre possible le vote à distance, le vote électronique. D'autres vous disent à l'inverse que cela ne changerait rien, que le malaise est bien plus profond, et qu'aujourd'hui, plus que dans les urnes, quand les gens ont des choses à dire, ils le font dans la rue, en manifestant, comme l'ont fait les Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes il y a 2 ans, qui avait permis, à la marge, oui, de faire bouger le gouvernement avec des mesures qui avaient été prises. Ce serait le meilleur moyen, estiment nombre d'électeurs, de faire bouger les lignes, de se faire entendre, descendre dans la rue. Voilà où on en est. Ajoutons que le scrutin élections régionales et départementales n'aident pas à la mobilisation. Pour la plupart des électeurs, il faut bien le dire, cela reste assez flou. Alors on va élire des conseillers régionaux, mais dans le millefeuille territorial français, toutes ces strates administratives, il est difficile de comprendre, de savoir exactement quels sont les champs d'action de ces élus régionaux. Autant quand on vote pour une présidentielle et le chef de l'État, pour des élections législatives et les députés à l'Assemblée nationale, pour des municipales avec le maire de la ville, là les choses sont assez lisibles. Là, le rôle des conseillers régionaux avec des candidats le plus souvent inconnus du grand public n'aide pas à mobiliser les électeurs.
Venons-en aux résultats proprement dits. Quels sont les grands enseignements du scrutin ?
Bien, les tendances qui s'étaient affirmées lors du premier tour, elles se sont confirmées dimanche lors de ce deuxième tour des régionales, à savoir déjà que le Rassemblement national, parti d'extrême droite de Marine Le Pen, ne gagne aucune régions. Alors qu'il y a encore un mois, la question était plutôt de savoir combien de régions le parti en gagnerait. Les sondages nous avançaient avec quasi certitude, nous disait-on, que le Rassemblement national, au plus haut en position de force, raflerait la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans le nord, les Hauts-de-France, minimum de régions. À l'arrivée, c'est un camouflet pour l'extrême droite et pour Marine Le Pen, qui se voyait déjà en position de force après ces régionales, en vue de l'élection présidentielle, bien sûr, de l'an prochain. Là, il apparaît que particulièrement les jeunes et les classes populaires ne sont pas allés voter, et Marine Le Pen va devoir trouver de quoi rebondir pour 2022. L'autre enseignement, c'est que la droite classique, on va dire les Républicains et divers droites d'un côté, et la gauche autour du Parti Socialiste et des alliés communistes et écologistes sont les grands vainqueurs de ce scrutin. La droite gagne 7 régions en métropole, avec notamment un trio en tête d'affiche, Laurent Wauquiez pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, Valérie Pécresse pour l'Île-de-France et Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France. Ces trois-là étaient déjà à la tête de leur région. Ils les gardent et ils ne cachent pas qu'ils ont des ambitions présidentielles. Xavier Bertrand a dégainé le premier, il l'a déjà officiellement annoncé. Alors, il n'y aura qu'un fauteuil pour trois, mais ce qui est clair, que ce soit Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez ou Xavier Bertrand, ils se campent dans une posture d'opposition au président de la République, Emmanuel Macron. Et après ce scrutin des régionales, la droite, les Républicains sont persuadés qu'il y a un espace politique pour exister à la présidentielle et faire mieux que François Fillon en 2017, qui n'avait pas passé le premier tour, et donc ne pas revivre un second tour dans un an entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. À gauche, le Parti Socialiste, la gauche dans son ensemble, les alliés écologistes, fait le même constat en gardant 5 régions, plus la Réunion en Outre-mer. Eh bien, la gauche veut croire en son étoile pour 2022, mais là aussi, il va falloir régler les questions d'ego, de leadership pour 2022. Quel candidat ? Candidat socialiste, candidat écologiste ? Comment éviter la multiplication des candidatures ? Enfin, comme attendu, La République En Marche, le parti du chef de l'État, Emmanuel Macron, n'a pas pesé lourd dans ce scrutin, moins de 10% des suffrages dans l'ensemble à ces élections régionales au deuxième tour, et seulement comme lot de consolation, bien quelques élus, conseillers régionaux par-ci, par-là. La République En Marche, parti créé par Emmanuel Macron en 2016, ce parti qui lui avait servi de tremplin pour se lancer avec le succès que l'on sait dans la présidentielle de 2017. La République En Marche souffre d'un manque criant d'implantation territoriale, mais, et c'est là tout le paradoxe, cela n'a pas d'incidence, a priori, sur la cote de popularité du chef de l'État, et il en joue parfaitement. Aujourd'hui, à 10 mois de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron reste le mieux placé de tout l'échiquier politique pour l'emporter de nouveau, et donc pour être réélu pour un second mandat. Affaire à suivre.
Merci Émile pour avoir décrypté l'actualité française. Bonne journée, à bientôt.
Merci, merci. À bientôt.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Professeur Patrick Humbert, vous êtes professeur de cancérologie à l'Université de la Trobe à Melbourne et vous faites partie d'une équipe soutenue par des scientifiques de l'ANSTO qui ont découvert comment le virus COVID-19 attaque des tissus pulmonaires humains, créant potentiellement des effets désastreux sur la santé à long terme. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation, professeur Humbert.
De rien.
Pourriez-vous nous parler de cette recherche et des techniques de pointe à utiliser?
C'est une recherche en collaboration avec des chercheurs à l'Université de la Trobe et une équipe de physicistes avec l'ANSTO au synchrotron australien à Melbourne. Et mes collègues à l'Université de la Trobe sont professeur Marc Vensakoul et une étudiante en thèse, Hera Jaworski, qui a vraiment fait la plupart de cette recherche. Donc, on est devenu intéressé aux effets pulmonaires du virus SARS-CoV-2 et en particulier aux effets de la maladie persistante du COVID. Et cette maladie, c'est la persistance de divers symptômes chez certains patients pendant plusieurs semaines à plusieurs mois après la guérison apparente de l'infection. C'est une fatigue prolongée, mais vraiment des gènes respiratoires, maux de tête. On appelle ça le Covid long. Donc, on a pu découvrir la structure atomique d'une protéine du virus du Covid qui s'appelle protéine E, donc une protéine enveloppe. Et cette protéine est très importante pour les phénomènes hyper-inflammatoires. Donc, c'est des événements qu'ils appellent orages cytokinétiques, mais qui sont vraiment responsables pour les dommages cellulaires des poumons. Et cette protéine, E, bloque l'activité d'une autre protéine des poumons humaine qui s'appelle PALS1. Et c'est très important pour la structure des alvéoles dans les poumons. Et donc, avec cette structure atomique des deux protéines en contact, qui est vraiment une carte très, très grand détail de la cible du COVID, on peut maintenant l'utiliser pour nous aider à utiliser des médicaments déjà prescrits dans d'autres maladies. On parle de repositionnement thérapeutique. Donc, ce qu'on veut faire, c'est de pouvoir avoir des informations sur le COVID, sur ses effets longs, et de pouvoir aussi arrêter ces dommages dramatiques sur les poumons initiales.
C'est une découverte d'autant plus importante qu'elle met en lumière les dangers des effets à long terme du COVID. Et une étude qui sera d'autant plus importante que beaucoup, surtout parmi les jeunes, ne semblent pas comprendre tous les dangers de cette maladie.
On a la chance en Australie, où on n'a pas vraiment beaucoup de patients comme ça, mais en France, je crois qu'il y a plus d'un million de patients qui ont ce COVID long. Et en addition du COVID long, on a aussi besoin de médicaments pour le traitement du COVID. Donc la vaccination, c'est bien sûr la première chose à faire, mais pas tout le monde peut être vacciné. Les vaccins ne sont pas toujours efficaces dans les personnes âgées ou avec les personnes avec des comorbidités ou d'autres maladies qui ont des effets immunitaires. Et aussi, il y a le risque de nouveaux variants comme le variant Delta. Et les vaccinations vont peut-être pas marcher au court terme. Donc, on a besoin d'avoir des médicaments pour le traitement du Covid. Donc, c'est une autre approche aussi.
Et je rappelle encore une fois que c'est une collaboration entre votre université, la Trobe University et l'Insto. Pourriez-vous élaborer davantage sur cette collaboration? Est-ce que c'est que l'Insto?
Donc, l'Insto a aidé beaucoup de chercheurs comme nous. Et ils sont en charge de toute l'infrastructure. Et en particulier, pour nous, c'était le synchrotron à Melbourne. Et le synchrotron vraiment nous donne une source de rayons X qui est unique et qu'on peut utiliser pour illuminer les atomes des protéines. Donc, dans ce cas, c'est le SARS-CoV-2 protéine E. Et avec ces cristaux et ces illuminations des rayons X, on peut avoir des ombres créées par les atomes et on reconstitue des images des molécules. Et ça peut nous aider pour la conception des médicaments, par exemple.
Et cette étude ouvre la voie à de recherches menant à la possibilité d'un autre front de la lutte contre le Covid.
Nous, on veut continuer aussi avec les études. On veut pouvoir penser à comme je disais avant, c'était de pouvoir avoir des médicaments. Donc, on pense pouvoir prendre des médicaments déjà prescrits dans d'autres maladies.
Oui.
Et à commencer à pouvoir utiliser ça pour cibler le virus. Mais pour l'information publique, on aimerait bien que tous les chercheurs puissent continuer ces études aussi.
Voilà, ça redonne espoir parce qu'il y a beaucoup d'informations sur des molécules anciennes qui pourraient être réutilisées, ce qui sauverait aussi beaucoup d'argent parce qu'on ne doit plus nécessairement aller sur des nouvelles technologies ou de nouvelles molécules dont on ne connaît pas les effets à ce moment-ci.
Et c'est ça, c'est l'avantage de cette approche, c'est que la toxicité des molécules sont déjà connues et puis ça permet d'accélérer le processus d'évaluation.
Oui, d'accord. Et avant de nous quitter, un mot de la fin, peut-être une ouverture sur le futur ou l'avenir. Quelles sont vos recommandations?
La vaccination, bien sûr. La vaccination, on a de la chance en Australie et je crois que c'est un petit problème qu'on a avec la vaccination. On pense qu'on est sauf ici et si on veut pouvoir rentrer en Europe, en France ou n'importe où, il faut être vacciné. Mais bien sûr, la vaccination, ça sera un aspect. Et comme on discutait, les médicaments pour le traitement du Covid, on doit aussi continuer à travailler.
Voilà, professeur Humbert, merci infiniment d'avoir pris le temps de répondre à nos questions aujourd'hui.
Merci Bertrand.
Choisissez sbs.com.au/french comme page d'accueil de votre navigateur Internet. Retrouvez les dernières informations et actualités, participez à nos sondages et contactez-nous. sbs.com.au/french.
Moi je n'étais rien, voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira. On n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime mourir.
Et vous avez, j'en suis certain, reconnu ce classique de Francis Cabrel qui s'intitule « Je l'aime à mourir ». 13h15. Quasiment 47 minutes, vous êtes sur SBS, le programme en français. Et pour la dernière partie de notre émission, on va tricher, on va basculer sur de l'anglais. Bertrand Tungandamé a rencontré Laurie Lawrence, un ancien joueur de rugby qui a créé une plateforme sur Internet destinée à apprendre aux enfants comment éviter de se noyer.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Laurie Lawrence, you're a top athlete, a former Australian Rugby Union representative. You are also an Olympic and world champion swim coach. And now you've just launched a new training platform to help teach millions of Australian kids essential water safety messages. Before we delve into this new training platform, first of all, welcome to SBS French.
I love it, mate. I love SBS. We're on all night.
Yeah.
It's a great, great station.
Yeah. Now, tell us about this new program that we've just developed for kids.
Bertrand, it's a new online training platform, and it's out there to teach millions of kids water safety and give that water safety message in a fun way to kids. And the way I see we do it is we do it through librarians, through childcare centres, through community organisations, and through schools. So we've put it all online to teach these people how to do it, to teach the librarians, to teach the childcare centres operators, community organisations, have schools and kids in school. So it's all about educating the community about water safety for young kids. And it's all done in this online training platform. It's free. There's no charge. People just go on to kidsalive.com.au and then they can start their training for whatever age, whatever group they do.
And why is it important to bring this program out at this time of the year?
Well, this time of year, unfortunately, although the country loves swimming, you know, Australian are noted for swimming, in the winter, there's always a 20% drop-off of kids learning to swim. But kids drown any time of the year. Summer's more prevalent, but they'll drown any time. So we want to keep water safety front of mind for thousands of little kids. And once again, if they stop their swimming in winter, then they come back and they're not as advanced in summer, so they're more likely to drown. So we want to encourage people to swim all year round and heed these water safety messages, and we get those water safety messages out through our online training platform for librarians, childcare teachers, community organisations and high schools. The high school ones really is going to be a beauty because that's going to involve the whole community for the schools, the high schools that take it up. So we've had, we've got this training platform for a play which involves the arts department at high schools. So the arts teacher at the high school gets the music, gets the script, gets the dance routines, and teach all these fun song and dance and audios to the pupils, who then perform for the community. They get the local preschools in and they perform. So you've got the senior high school students who have learned off our platform. They can perform. So they get the double whammy. They get to perform for the kids, and they do that in their school curriculum. And then they have the young kids coming in getting educated. It is just so good to involve the entire community.
Why is it important for kids, especially the younger ones and their parents, to be involved in this? Because I'm thinking especially for under fives.
You know why? Because the Kids Alive Do the Five program is not about Kids Alive Do the One. It's not about just learning to swim or anything. It's about five. Fence the pool, shut the gate, teach your kids to swim. It's great. That's where I come from, because I love teaching swimming. Supervise, that's where the parents come in. Parents are part of it. So we have to also education campaign for the parents to make sure that they're involved with vigilant supervision. We don't want them on, when kids are around the water, we don't want them on these iPhones and iPads. We want them watching and enjoying what their kids are doing. So the parents are a very important part in the Kids Alive Water Safety Program.
Australia is a vast country with lots of differences from city to regional and remote areas, coastal and inland spaces. Well, does the program cater for all these different settings?
Well, it's home, pool, beach and farm safety. That's where kids drown, in one of those elements. Dive into books. Where we offer these four books, Home, Pool, Beach and Farm Safety, where this little alien comes down, to be read in the libraries. So straight away the librarians have become partners teaching these little kids, some of these 3 million young children under the age of five who go into the libraries each year. So, mate, when it's fun, there's song and dance and rhythm and rhyme, that's how kids learn. And by being engaged in the libraries, all these little kids learn A, about water safety, and B, about the importance of learning to swim at an early age, because that's where I come in. I really believe that all kids under the age of five should have swimming lessons, and they should have swimming lessons all year round.
And where can people go for more information?
They only have to go onto the Kids Alive website, kidsalive.com.au, and on there you'll find everything. You'll find the new online training platform, you'll find songs, you'll find dances, you'll find stories, you'll find personalities all around Australia, Kathy Freeman, and many sporting personalities like Kathy, reading these fun books to the kids. So there's a host of stuff there to keep the kids interested and to teach them about water safety. And all these things are in line with the 2030 Australian Water Safety Strategy, where we want zero preschool drownings by 2030. We've come down from 63 drownings in the year 2000 down to just 12 last year. So we figure if we keep going at this rate, we can have zero preschool drownings by 2030. But I can't do it on my own. I need people to help. And that's why I'm calling on today librarians, childcare teachers, childcare centres, community organisations, high schools, through the arts department, to become involved with the Kids Alive Do the Five online training platform. And this way, we can keep driving the stats down to zero, in a fun way where the whole community is involved.
Laurie Lawrence, thank you so much for taking the time to talk to us today.
Thank you very much for having us, because it's only people like your own radio station who care about the community who give us the opportunity to get out to the general population. Thank you.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts.
Il se couvre de serments, se jure de poursuivre leur course en équilibre sur les pierres des torrents. À l'aube revenant, chacun séparément continuera le rêve.
SBS en français, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte avec un autre morceau de Francis Cabrel, beaucoup plus récent, qui s'intitule « À l'aube revenant ». Notre prochain rendez-vous en direct, ce sera jeudi à 13h. Et d'ici là, vous pensez que... N'oubliez pas aussi que vous pouvez vous abonner à notre chaîne SBS French pour nous écouter quand vous voulez en podcast. Faites attention à vous, si vous le pouvez, allez vous faire vacciner et je vous dis à très bientôt.
Se jure de poursuivre leur course en équilibre sur les pierres des torrents. À l'aube revenant.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.